le bien attire à lui-même, en provoquant l'amour. Le bien, en déterminant notre volonté, l'actue. Et cet acte immanent du bien, de l'amour, et l'effet direct du bien. Nous voyons donc, par cette expérience de la découverte de l'amour en nous, comment nous sommes plus que déterminés, nous sommes finalisés par le bien. Il y a donc un ordre qui s'établit entre la causalité propre du bien et l'amour. Tout amour provient du bien. L'amour n'est pas quelque chose qui, au-dedans de nous-mêmes, s'actue, mais l'amour se réalise et s'actue grâce au bien. Il y a donc une relation entre cette possibilité d'aimer et l'amour lui-même qui provient du bien. Et nous voyons que cette relation du bien à l'égard de notre capacité d'aimer se répète de multiples manières. Elle se réalise au niveau passionnel. Il faut un bien sensible pour éveiller notre passion, pour que notre passion se réalise. Il y a donc une relation différente que celle de la détermination que nous avions découvert au niveau de la recherche de la substance. En ce sens que nous avions découvert la substance comme la détermination principale et première de l'être, de ce qui est. Ici, nous découvrons une relation de type original de ce qui est capable d'aimer au bien qu'on aime. Ce n'est plus une détermination, mais c'est une possibilité d'aimer Et c'est l'amour qui s'éveille en face du bien. Donc, tout ce qui est capable d'aimer dépend du bien, s'éveille devant le bien. C'est la relation de ce qui est en puissance vers l'acte. C'est très différent comme relation. L'une est du côté formel et l'autre est du côté final. Le bien joue ce rôle de fin. Il attire. Attirer, ce n'est pas déterminé. Mais attirer, c'est plus que déterminer. Ça implique la détermination, mais ça implique en même temps un certain rôle d'aller vers. On est attiré. Ceci se répète de fait dans plusieurs domaines, non pas en premier lieu, c'est-à-dire de la manière la plus évidente, la plus forte, du côté de l'amour d'amitié. L'ami n'est ami qu'en fonction de l'attraction de l'ami. Mais dans l'amour d'amitié, il y a bien cela, c'est l'ami qui me réveille comme ami, qui m'actue comme ami. C'est réciproque. Mais c'est une relation très forte. J'aime mon ami. J'aime mon bien. Le bien joue le rôle d'attraction. Le passage d'une manière d'être capable de à l'acte, capable d'aimer. L'acte d'aimer, j'aime mon ami. Et pourquoi j'aime mon ami? Parce que mon ami m'aime. Parce que mon ami est pour moi mon bien. C'est très important de découvrir par rapport à l'amitié cette relation spéciale de celui qui est capable de et qui aime, capable d'aimer et qui aime. Il passe de la puissance capable d'aimer et aimer. Ce n'est pas la relation de la détermination, de la forme détermine. Ici, il y a plus, il y a une attraction qui s'exprime dans un amour actuel. L'amour actuel, c'est tendre vers celui qui reste dans l'immobilité de la détermination, n'aime pas. Il est capable d'aimer, mais n'aime pas. Ça, nous pouvons le comprendre dans l'expérience. et nous pouvons l'analyser à partir de l'expérience. Ce qui est important, c'est de découvrir cette attraction à plusieurs niveaux. Nous la découvrons d'abord pour l'amour d'amitié, parce que c'est l'expérience type d'amour. Et c'est là où cette expérience a son caractère le plus original. Celui qui n'a jamais aimé a beaucoup de difficultés de distinguer le mouvement amour de la détermination formelle. Là, il y a une expérience qui est sui generis. On l'a ou on l'a pas. Donc, cela pose donc un problème, puisque c'est original et ça ne s'explique pas par le point de vue de la détermination. Ce qui est en puissance à être déterminé et ce qui est déterminé. La causalité formelle détermine. Le point de vue du bien qui attire et du point de vue du bien qui attire en se donnant, c'est quelque chose de plus que la détermination. Je crois que cela est facile à comprendre une fois qu'on a l'expérience de l'amitié. Sans l'expérience de l'amitié, c'est très difficile. Mais l'expérience de l'amitié nous montre que nous sommes capables d'être l'ami de beaucoup de personnes. Notre amitié n'est pas arrêtée. Au contraire, l'amitié qu'on a pour quelqu'un éveille une autre amitié pour quelqu'un d'autre. C'est très curieux. Nous sommes à un plan spirituel et donc pas d'exclusivité. Toute exclusivité vient de la matière. Parce que la matière capte. S'il n'y a pas la matière, il n'y a pas d'exclusivité. On a donc cette expérience que l'amitié qu'on a pour quelqu'un nous rend plus aimables pour d'autres. On dira ça spontanément du reste. Quand quelqu'un a vu son ami, « Oh, mais comme tu es joyeux aujourd'hui, c'est merveilleux !» Et il est joyeux pour les autres. Donc, il est éveillé à l'amitié. C'est très spécial, ça. Et c'est propre à la finalité. Parce que la finalité se découvre avant tout dans un domaine spirituel, l'amitié. Ce n'est pas mon corps qui me fait découvrir ce qu'est l'amitié, c'est mon esprit, c'est mon âme qui découvre l'amitié spirituelle, la véritable amitié. Et cela, c'est quand même important à voir par rapport à l'expérience propre de l'amour. Nous découvrons ensuite ce même lien dans l'ordre physique, dans l'ordre de la nature. Nous découvrons que la nature s'éveille, s'actue. Dans sa recherche de sa finalité, dans la recherche de son bien, dans la recherche de son développement. La vie végétative, c'est d'abord un bourgeon, puis la fleur. Il y a une étape. Le bourgeon, c'est la possibilité de grandir, de se développer. Mais dans la vie végétative, dans la vie physique, le point de vue de l'immanence de la vie fait que l'aspect de l'attraction du bien est beaucoup plus caché, parce que on a l'impression que cela provient de la vie végétative. La vie végétative se développe, elle grandit, et sa force vient d'elle-même. Quand vous voyez un petit arbre grandir, c'est cet arbre qui grandit. Vous ne voyez pas le bien qui l'attire, hein ? C'est très cru, mais c'est comme ça. C'est très important de voir ça. Parce que ça fait comprendre ce que Aristote précise, que la cause finale n'est explicite que lorsque il y a l'esprit. La cause finale s'explicite comme une véritable causalité, un principe, que dans l'ordre spirituel. Quand vous êtes dans l'ordre physique, matériel, vous avez l'impression que tout provient de l'efficience de la vie. C'est l'efficacité de la vie qui elle-même se détermine. Ça fait comprendre que la finalité de la plante, elle doit être vue à partir de sa détermination. Un petit animal se développe autrement qu'un arbre. Vous êtes dans la vie végétative. La finalité ne se découvre qu'à partir de la détermination de la vie. La vie possède virtuellement sa finalité. Sa finalité est donc cachée dans la cause formelle. Aristote a vu ça merveilleusement quand il dit en physique qu'il n'y a pas d'induction propre de la fin physique. En physique, on découvre la finalité à partir de la détermination. L'arbre se développe autrement que la biche. Mais l'arbre, lui aussi, est dépendant de la finalité. La biche, elle est dépendante aussi de la finalité. Et l'homme est dépendant de la finalité d'une autre façon dans l'amitié. Vous n'avez pas l'amitié dans l'ordre végétatif. Vous avez la fusion. C'est extrêmement curieux, cela. Et c'est intéressant, c'est important de voir ça. Parce que la plupart du temps, quand les philosophes parlent de la finalité, ils la parlent au niveau végétatif de la vie et à partir de la détermination. Alors, vous n'avez qu'une seule chose, la fusion. La fin est immanente à la vie végétative. La fin est immanente à la vie végétative. C'est pour ça que vous pouvez manger trop. Quand vous mangez trop, vous faites un péché contre la finalité. Parce que on mange pour vivre. Or, si on mange de trop, on arrête de vivre. On a envie de dormir. C'est très curieux, mais ça, il faut le voir. Parce que la plupart du temps, on parle de la finalité. En réalité, on parle de la finalité comme le développement de l'efficience, du vivant. Comme tout est déterminé à partir du vivant. Donc, la finalité n'est pas découverte comme un principe propre. La finalité est découverte à partir de la causalité formelle. Alors ça, c'est très important. Il faut donc revenir à l'esprit pour découvrir le principe de finalité à partir de l'amitié. On revient à partir de l'amitié au bien. Et le bien, c'est l'être. Et au niveau de l'être, on retrouve que tout ce qui est en puissance est ordonné à l'être. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'être. On ne peut pas s'arrêter au point de vue de la considération de l'être à la puissance. La puissance, vous la découvrez toujours à partir de l'acte. Dans l'ordre physique, hein. Vous voyez ? Vous la découvrez à partir de l'acte. Et vous la découvrez à l'état imparfait. L'acte est dans un état imparfait quand il est en puissance. L'acte est à l'état parfait quand on est à la fin. Et de fait, à cause de la matière, tout être en acte est d'abord en devenir. Et donc, tout être qui est en devenir est ordonné à l'acte. Vous voyez, la découverte est tout à fait différente quand il s'agit de l'expérience que nous avons de notre vie morale, de notre amitié. On a l'expérience de l'esprit. Quand vous avez l'expérience du monde physique, le monde physique n'a pas de finalité séparée de la détermination. C'est la détermination qui finalise le monde physique. Une détermination parfaite. Alors, très facilement, on identifie une réalisation parfaite à la fin. Parce que le monde physique, celui qu'on voit, celui qui manifeste, nous montre ça. L'être parfait atteint son bien. Il est finalisé par sa perfection. Donc, il est finalisé non pas par un bien extérieur, mais par un bien immanent. Ça, c'est très important de comprendre cela. Parce que la plupart du temps, on comprend, je parle des thomistes, je parle de la scolastique, la plupart du temps, on comprend la finalité à partir de la perfection. Et on croit qu'on a saisi la finalité parce qu'on a vu que tout être vivant tend vers la perfection. Et la perfection, il l'a de lui-même, de l'intérieur. La finalité, il l'a par l'extérieur. Et cette confusion, alors, de la finalité à la perfection, fait qu'il n'y a plus de principe propre à la finalité. Tout se ramène à la cause formelle, qui est dans un état réalisation imparfaite, réalisation parfaite. Donc, la finalité se saisit au niveau d'un mode d'être et non pas comme un principe. Et ça, c'est très important de comprendre cela. De comprendre que la finalité, comme principe, ne peut se découvrir qu'au niveau de l'esprit. Au niveau des réalités qui ne sont pas l'esprit, vous ne découvrez pas la finalité, mais la perfection. Et la perfection, elle est immanente. Vous voyez bien, la perfection d'un acte, hein, quand vous apprenez un métier de forgeron ou de menuisier, vous avez beaucoup de peine à atteindre la perfection. Vous devez recommencer pour atteindre la perfection. Et la perfection se découvre à l'intérieur même de l'action. C'est l'action qui est parfaite. Et quand on confond perfection et finalité, on ne ne découvre plus jamais la finalité comme dans l'extérieur. Je donne un exemple. Une excellente carmélite me dit, une révérende mère, c'est celle qui fait toute la règle. J'ai entendu ça, c'est pas inventé. Donc, confusion entre l'amour et la perfection. Vous voyez les différences, j'espère. On devient parfait. L'amour, je ne dis pas qu'on devient, on aime. C'est curieux. On aime par l'attraction du bien. Je suis parfait en répétant tout le temps la même action. Et cette action devient parfaite. Et on dit, bon, puisque cette action est parfaite, c'est bien, c'est fini. On va arriver à raboter parfaitement. Voyez. Et de fait, la scolastique décadente a confondu perfection et finalité. Et vous avez l'exemple d'une excellente carmélite, très sainte, qui dit, cette religieuse est parfaite, elle fait toute la loi, elle fait toute l'observance. Le chrétien, c'est celui qui vit parfaitement de la loi. Il est parfait. C'est encore l'Ancien Testament. Hein. Vous dites, vous avez à répondre à cette révérende mère. Ma mère, vous êtes encore de l'Ancien Testament. Alors, elle lui répond, pas du tout, pas du tout. Et mais oui, vous identifiez perfection et amour. Je sais bien, le Seigneur dit, soyez parfait, comme le Père Céleste est parfait. Mais c'est comme le Père Céleste est parfait. Alors chez le Père Céleste, la perfection, c'est la bonté. Tandis que chez l'artisan, la perfection, c'est pas la bonté, c'est la perfection. Immanente de l'œuvre. Vous voyez ? C'est très important de distinguer ça, parce que la finalité alors disparaît, et c'est la cause efficiente qui prend tout. Et ça a été le défaut de la scolastique. La cause efficiente est au prix. Alors au point de vue vie, c'est parfait, mais au point de vue finalité, non. La finalité implique un saut dans le vide. Pour atteindre le bien. Tandis que la perfection, il n'y a pas de saut. J'arrive petit à petit, chaque jour. Alors, on fait sa sainteté. Alors, la sainteté, on ne la fait pas, on la reçoit. Causalité finale. Alors, c'est ça qui est très important à découvrir. C'est justement, par la perfection, vous ne découvrirez jamais la finalité. Et même la perfection devient souvent l'ennemi le plus terrible de la finalité. C'est ce qu'on voit chez les pharisiens. Ils sont parfaits. Et ils sont heureux d'être parfaits. Mais ils n'aiment pas. Et ça, c'est très, très important de voir que la cause finale ne se découvre comme principe que par l'esprit. dans le monde physique, la cause finale se déduit comme une conclusion. Il est parfait. Cet animal est parfait. Il ne manque rien. Mais la causalité finale, c'est qu'il doit se dépasser. Je me dépasse toujours par la causalité finale, tandis que je ne me dépasse jamais par la cause efficiente. Je demeure parfait. Quelqu'un qui est parfait, on ne peut pas le déloger, c'est impossible de le déloger. Il est parfait. Il est stable en lui-même. L'amour, c'est le dépassement. La finalité, c'est le dépassement. Donc vous voyez que cette induction de la finalité doit se faire à partir des actes spirituels. L'amitié, en premier lieu, et prendre toutes nos activités humaines d'art. Parce que, en art, c'est ça qui est grand dans l'art, c'est qu'on ne peut pas rester sur la perfection. Vous jouez parfaitement le violon, mais c'est pas artistique. C'est la virtuosité. Et la virtuosité remplace l'art. C'est terrible, ça. Dans la vie, et appliquer ça à la vie monastique, hein. C'est un moine parfait. On ne peut jamais le prendre en erreur. Il est parfait. Il fait tout ce qui est demandé par la règle. Il le fait parfaitement. Et parce qu'il est parfait, il se considère comme le modèle pour les autres pharisiens qui poussent. Ha ha ha.